7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, bonjour les voisins, bonjour Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis du Sénégal, une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité, mais aussi une ville menacée par la montée de l'océan et par toutes les difficultés finalement des villes secondaires africaines, problèmes de salubrité, problèmes de volonté politique, fuite des cerveaux vers la capitale, malgré l'université prestigieuse Gaston Berger. Alors peut-on aujourd'hui entreprendre loin des capitales en Afrique, business, politique, création artistique, la croissance urbaine va-t-elle enfin profiter vraiment aux villes secondaires, parce que ce sont bien ces villes de taille modeste qui sont en train de grandir très vite, qui représentent plus de la moitié de la croissance urbaine du continent. Mais dans ces cas-là, comment se faire entendre quand on veut entreprendre dans ces villes, loin du pouvoir, loin des médias aussi? Ces villes peuvent-elles constituer une opportunité pour les jeunes? On a beaucoup de jeunes qui sont venus aujourd'hui, notamment l'université Gaston Berger, qui sont là aussi à l'occasion du forum de Saint-Louis. Alors on va donner la parole à des parcours très différents qui sont sur scène aujourd'hui, dont certains sont venus d'ailleurs de loin pour participer au forum de Saint-Louis, discuter aussi de l'avenir du continent. Madani Tal, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes malien, vous avez été élu local pendant 10 ans au pays d'Ogon, dans le cercle de Bandiagara, dans la commune de Doukombo.
Tout à fait.
Vous êtes aussi président du parti politique Avenir et Développement du Mali. Vous avez aussi été notamment candidat à la présidentielle, mais vous aimez vous décrire comme un homme politique de terrain également, économiste.
Tout à fait.
De formation. Bagoré Batili, bonjour.
Bonjour.
Tout le monde vous connaît ici, ou presque. En tout cas, tout le monde connaît vos yaourts de la marque
Dolima.
C'est ça, vous connaissez tous, hein. Oui. On est bien d'accord. Vous êtes le cofondateur de la laiterie du Berger, une entreprise de produits laitiers basée à 100 km au nord de Saint-Louis, à Richartol. 40 000 habitants.
Oui, c'est ça. Oui. Intramuros.
Oui.
On est 200 000 en comptant le rayon dans lequel on collecte du lait, sans compter les chèvres et les vaches, bien sûr.
200 000 personnes avec les alentours. Grosse industrie sucrière aussi, hein, oui. Il faut le préciser. Barthélémy Togo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste, plasticien, camerounais, connu à l'international très largement. Vous êtes aussi promoteur d'un centre d'art en Afrique, à 300 km de Yaoundé et de Douala. Et c'est pour ça qu'on a tenu à ce que vous puissiez vous exprimer dans cette émission. Vous vous êtes installé en pays Bamileke, vos origines familiales.
Oui.
À Banjoun.
Oui, où sont nés mes parents.
Et vous avez fondé Banjoun Station.
Un projet culturel et agricole.
Vous retenez captifs des artistes pour qu'ils créent en toute sérénité.
Dans le calme et dans la sérénité.
Et vous nous expliquerez pourquoi il faut qu'il soit au milieu des champs de café, hein, et pourquoi, loin des capitales, le mariage de l'agriculture et de la culture. Ablaï Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicien, virtuose, poète de la Cora, Saint-Louisien, né en Casamance.
Exactement.
Grandi à Saint-Louis à l'adolescence, la musique est venue à vous par le fleuve?
Oui, c'est fait partie de moi. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'être né dans une grande famille où mes parents jouaient de la kora et chantaient aussi.
Griot.
Exactement.
De naissance, ou presque. Oumariam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un entrepreneur, Saint-Louisien par votre mère.
Oui.
Et ça compte, hein, toujours ça.
Et par ma femme.
Ah oui, oula. Alors là, cofondateur de Wicari. Structure logistique qui permet à ses clients d'acheter partout dans le monde et d'être livrés au Sénégal. En fait, vous êtes un intermédiaire pour faciliter le e-commerce, notamment pour des gens qui ne sont pas bancarisés, qui veulent quand même acheter à l'autre bout du monde des produits. Vous nous direz pourquoi vous misez aujourd'hui sur les villes secondaires. Les voisins, n'oubliez pas que vous pouvez aussi, bien sûr, réagir sur Facebook, Twitter, retrouver également nos photos, vidéos sur Instagram. Et puis, on donnera aussi la parole à des jeunes dans le public.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
On va parler des opportunités, des difficultés dans les villes secondaires. Je voudrais donner la parole d'abord à Oumariam, entrepreneur. Vous êtes cofondateur de Wicari, donc une plateforme pour faciliter le e-commerce en tant qu'entrepreneur, alors que vous travaillez au départ à Dakar. Pourquoi vous misez aujourd'hui sur les villes secondaires?
On est entrepreneur, on est drivé par les chiffres. Quand on regarde les chiffres au niveau du e-commerce, en tout cas au Sénégal, Dakar, c'est le principal foyer de consommation, suivi de Touba, qui est un grand centre économique et deuxième ville au niveau de la population aussi. Et après, on voit que c'est Saint-Louis et Ziguinchor qui consomment du e-commerce. Quand on pousse un peu plus l'analyse, on se rend compte que c'est la population estudiantine, c'est l'université de Saint-Louis qui consomme du e-commerce au niveau local. Ben, on a vu ces chiffres, étant donné que nous sommes dans le secteur et que nous voulons développer notre activité, qui est plus de l'international, on se dit qu'il y a un potentiel au niveau de Saint-Louis. Sachant qu'il y a des entreprises qui arrivent aussi, qui sont dans la zone, Bagoré qui est d'ailleurs un de nos clients. Donc on se dit qu'avec les entreprises qui arrivent, avec la population expatriée qui aime bien Saint-Louis, qui est à Saint-Louis, et la population estudiantine, il y a bien quelque chose à faire au niveau du e-commerce.
Donc finalement, la politique de décentralisation des universités au Sénégal, ça tire le commerce.
Exactement, que ce soit sur Saint-Louis.
Les jeunes urbanisés qui veulent consommer.
Voilà, qui consomment, qui sont connectés, puisqu'ils sont dans les études supérieures, et qui connaissent les produits qu'ils veulent avoir. C'est un nouveau marché qui s'ouvre pour nous par rapport à ça.
Bagoré Batili, vos yaourts sont achetés par qui aujourd'hui au Sénégal ?
Ils sont achetés essentiellement par des urbains, parce qu'il faut une distribution structurée, le plus possible d'ailleurs, hein, pour bien distribuer du yaourt, la chaîne du froid, etc., etc.
Et par rapport aux petites villes, aux villes secondaires ?
Les villes secondaires, toutes les villes secondaires aujourd'hui de Dakar. Depuis 2012 à peu près, on a testé des modèles pour sortir de Dakar. Bon, ça voulait dire nous réorganiser au niveau de la logistique. Et puis on a réussi ça, et à partir de 2014, on peut dire que dans toutes les villes du Sénégal, il y a du Dolima.
Oui, mais ça n'est pas aussi simple que ça, si on regarde d'où partent les produits à Richard Toll. Vous avez commencé à vous intéresser à l'élevage en rentrant au Sénégal après votre diplôme de vétérinaire. Voilà. Et vous avez travaillé dans une ONG en rentrant par la Mauritanie. Pourquoi vous avez finalement décidé de vous installer si loin de la capitale?
Ben, loin de la capitale, Richard proche Toll, des vaches. Il faut être proche des vaches.
Pour
le lait, il y a toujours des vaches pas loin. Avant, période d'industrie, moi je suis vétérinaire, donc en effet, et j'étais donc amené à travailler pour des éleveurs. Mais il se fait que les éleveurs, justement, qui sont tous hors des villes, sont restés depuis, en tout cas, si on prend le démarrage, la décolonisation, là, sont restés dans une situation de grande pauvreté. Donc, ils n'ont pas accès à plein de choses, en particulier aux services. Donc, le travail de vétérinaire, on peut dire, n'existe pas. Tant que les éleveurs n'ont pas de pouvoir d'achat, le travail de vétérinaire en tant que tel n'existe pas. Donc, quand je suis rentré et que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut commencer par valoriser ceux qui savent faire, comprendre ce qu'ils savent faire. Ils savent élever. Qu'est-ce qu'ils produisent? Valorisons ça, le lait. Okay. Donc, il faut monter une filière de collecte. D'autant plus
qu'est-ce que ça a créé sur Richard Toll, sur l'environnement de la ville de Richard Toll?
Maintenant, ça fait 10 ans. Donc, ça fait 10 ans qu'on collecte du lait. On touche des centaines de fournisseurs, des centaines de familles qui ont des revenus constants maintenant, enfin réguliers, alors qu'avant, ils ne l'avaient pas. Quand ils voulaient avoir de l'argent cash, ils vivaient de troc essentiellement avant. Quand ils voulaient avoir de l'argent cash, il fallait vendre une vache. C'est pas très organisé, donc il y a des marchés hebdomadaires. Il faut aller le mercredi, hein, si on est dimanche comme aujourd'hui, déjà, il faut attendre 3 jours, il faut s'y rendre, il faut trouver un client. Et souvent, c'est des bouchers, ils tuent la vache, après ils vendent la viande et après ils vous payent. Donc, ils n'ont vraiment pas accès au cash. Alors que maintenant, chaque mois, ils ont la paye du lait. Ils appellent ça comme ça d'ailleurs, la paye du lait. Et donc, ça a permis non seulement d'avoir du cash, mais en 10 ans, on voit plein de nouveaux comportements. Ils se sédentarisent, ils organisent mieux leur village, en fait, des lieux dits qui se stabilisent. Nous, on est très sensibles à jusqu'où on va, c'est quoi la prochaine étape. Ouais. Et donc, on pousse vraiment.
Alors, justement, quand vous avez commencé il y a 10 ans, les yaourts étaient fabriqués exclusivement avec le lait des éleveurs. C'est ça, vos yaourts. Mmh. Vous aviez 800 éleveurs il y a encore un an. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus que 400 éleveurs dont vous récoltez le lait frais de vache. Le reste dans vos yaourts, on ne va pas se mentir, c'est le lait en poudre.
Oui.
Donc c'est le lait qui arrive à Dakar via l'importation.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand on a démarré avec un noyau d'environ 150 éleveurs et ça a grossi jusqu'à 800 comme vous dites. Hein, donc, c'est bien, on avait deux effets vertueux, plus d'éleveurs et plus de lait par éleveur. Néanmoins, la croissance de la consommation sur les marchés est tellement dynamique que de toute façon il y avait un gap qui se faisait entre ce qu'on était capable de vendre et ce qu'on était capable de collecter localement. Bon, en plus, il y a des effets de saisonnalité. En saison sèche, il y a beaucoup moins de lait qu'en saison des pluies. Donc, on a utilisé le lait en poudre comme compensation de nos besoins. Et néanmoins, vous avez raison de le souligner, il y a un an, à cause de problèmes réglementaires, hein, au Sénégal, la réglementation défavorise...
Alors, quand on dit réglementation, c'est la taxe. C'est-à-dire que le lait en poudre, il est moins taxé que le lait des vaches et des éleveurs au Sénégal.
Oui, c'est vrai, c'est des calculs économiques compliqués, mais en les faisant bien, rigoureusement, c'est-à-dire en comptant tout ce qu'on paye, tout ce que l'État perçoit quand un litre de lait local rentre dans notre usine par rapport à tout ce que l'État perçoit quand un litre de lait en poudre rentre dans notre usine, on voit que c'est significativement supérieur sur la filière locale. Parce qu'il y a plein de taxes locales, en fait. L'essence est très taxée, l'investissement est très taxé, les patentes, etc. Il y a plein de taxes indirectes comme ça, les salaires sont taxés. Et à côté de ça, en parallèle à ça, il y a un dispositif pour les importations qui est très optimisé, en particulier pour les produits de première nécessité comme la poudre, qui ne paye que 5% de droits de douane. Donc, il y a une distorsion. Il y a une distorsion. Dans les faits, l'État prélève plus, gagne plus de taxes directes. Je ne parle pas d'effets économiques sur le long terme.
Mais c'est ça. Ça veut dire que, concrètement, rien n'est fait aujourd'hui pour qu'une entreprise comme la vôtre puisse prospérer, faire prospérer une petite ville secondaire comme Richard Toll, voire même jusqu'à Saint-Louis.
En tout cas, on pourrait faire plus, ça c'est sûr. On est un pionnier, je pense, la lettrée est un pionnier, elle montre plein de choses comme ça, des problèmes, maintenant on a mis le doigt dessus, et il s'agit de le régler vite. Et ça,
Sinon, Richard Toll va dépérir.
Disons que sans être alarmiste, simplement il y a tellement d'enjeux à développer, il y a tellement de besoins qu'il ne faut pas se priver de telles opportunités. Je pense qu'on devrait tous être animés par... Comment on fait pour... Là, je parlais de 800 éleveurs. Bon. Au Sénégal, il y a 350 000 familles d'éleveurs. Est-ce qu'on ne peut pas monter la collecte ?
C'est quoi, 25% de la population ?
Voilà.
Ouais. Ça, un quart de la population, les éleveurs.
Voilà.
À Dakar, ça parle à quelqu'un ou pas, ça ?
Bien sûr, je crois ça parle aux gens, mais passer à l'acte, avoir des actions concrètes, aller vite à l'action, une fois qu'on a identifié les problèmes, ça c'est complexe. Et je regarde, nous on a 10 ans maintenant, on est une entreprise un peu structurée, donc on peut se focaliser sur ce type de problème, enfin se focaliser, pas vraiment, mais on peut vraiment animer un travail sérieux là-dessus, mais c'est seulement maintenant. Dans les 10 dernières années, on avait la tête dans le guidon, on ne voyait même pas que ça existait.
Ouais. Ouais. Il y a un artiste à côté de vous, Barthélémy Togo, artiste plasticien. Barthélémy Togo, vous avez choisi de monter un centre d'art à 300 km de Douala, de Yaoundé. Vous dites d'ailleurs souvent dans les interviews que vous donnez à la presse internationale, il ne faut pas se regarder le nombril quand on est artiste. Il faut regarder autour de soi, y compris dans les champs.
Tout cela part d'une citation de Camus lorsqu'il reçoit le prix Nobel de la littérature en 1957. Il dit que l'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. C'est-à-dire que l'art doit aller vers les autres, les éleveurs, les agriculteurs, les forgerons et toute autre forme de métier qu'on peut avoir en campagne. Voilà pourquoi je suis parti de Paris dans les années 2000 pour aller à l'ouest du Cameroun. Je suis d'origine bamileke, mais je suis né au sud du Cameroun.
Ah oui, donc là c'est les deux extrêmes hein, quand même.
Parce que je me sens bien dans cet environnement de campagne et je me suis dit qu'il fallait redonner quelque chose aux gens de campagne, aux gens du village, à la communauté locale.
On vous a vu arriver comment ?
Comme quelqu'un qui avait échoué en Occident. Quand on part en Europe, il faut y rester et c'est très mal vu quand on revient. Je suis Camerounais, j'ai envie de donner quelque chose à l'Afrique et c'est à chaque fois un appel que je fais à toute la diaspora africaine qu'on doit garder ce côté de générosité et de redonner une partie de notre savoir à notre communauté. En tant qu'artiste, avec 10 années de formation, je me dois de redonner quelque chose à l'Afrique. Et voilà un petit peu comment on va construire ce continent.
C'est ce que vous avez fait. Et vous dites aux artistes, non, il faut rester loin de l'agitation.
Pour créer, voilà pourquoi Banjul Station est un environnement calme. À Banjul, à 300 km de Douala, c'est une résidence artistique où les artistes viennent sans discrimination, travailler.
Bon. Et pour les jeunes, question boîte de nuit, comment ça marche ?
Je crois que ce n'est pas la priorité. La ville, pour moi, c'est un lieu de désordre un petit peu. Non seulement la qualité de la vie n'y est pas, alors qu'en campagne, ils auront moins de problèmes pulmonaires parce qu'ils sont tous dans les cités. Les motos sont arrivées en Afrique, c'est bien. Mais voir toute cette jeunesse sur les motos, les Bensikin ou les Emidjan à Cotonou, je pense que ce n'est pas la solution. Mmh. Il y a autre chose que les motos. Voilà pourquoi je suis allé à Banjul, à l'ouest du Cameroun, réaliser ce projet avec un volet culturel et un volet agricole où il y a une plantation dans laquelle nous on fait du café pour critiquer, n'est-ce pas, une citation de Senghor qui disait que les prix des matières premières sont fixés par l'Occident et c'est des prix très bas qui appauvrissent les agriculteurs du Sud. Et nous, on a voulu nous-mêmes créer notre plantation agricole et produire notre propre café, le torréfier dans un emballage lithographié et fixer nous-mêmes le prix. Il coûte 20 euros est différent du prix du kilo au marché mondial.
Voilà, Barthélemy Togo, un artiste peintre plasticien. Voilà comment il se situe par rapport à la réussite loin des capitales en Afrique. C'est notre sujet. Dans quelques instants, on donne la parole à un ancien élu local au Mali.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai aimé le nom 7 milliards. Parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
7 milliards de voisins, l'émission est enregistrée à Saint-Louis du Sénégal à l'occasion du Forum de Saint-Louis. Peut-on réussir, peut-on entreprendre loin des capitales sur le continent africain ? Madani Tall, quelle est la marge de manœuvre pour un élu local dans le contexte malien actuel pour œuvrer pour sa commune, pour sa petite ville ?
Moi, je suis le fruit d'une désurbanisation progressive. J'ai commencé ma carrière en tant que banquier d'affaires à Wall Street, donc une mégalopole de 17 millions d'habitants. Je suis ensuite allé à Washington comme fonctionnaire international, donc une ville de moindre envergure. Et finalement, je suis rentré à Bamako, une capitale africaine, en tant que conseiller économique. Et finalement, je me suis retrouvé dans une petite ville à 700 km de Bamako, Doukombo, où il y a 14 000 habitants. Et je suis élu d'un petit village qui s'appelle Denguembéré, où on est 96 personnes. Voilà. Donc c'est le processus, comme le disait Barthélemy tout de suite, ce n'est pas nécessairement un processus d'échec, c'est un processus de prise de conscience.
Ça ne fait pas un vœu vieux sage, là, vos discours?
Ah non, du tout, du tout. Et justement, j'allais en arriver à M. Batchili. Je l'ai suivi il y a 10 ans. Ah, il ne s'en souvient peut-être pas. Il était avec sa sœur, je pense, et il venait de commencer cette aventure. Et lorsque je l'ai regardé, il était en train d'exposer ses idées à l'un de mes amis. J'ai dit, voici un jeune homme intelligent et courageux. S'il a suffisamment de patience, il risque de révolutionner son environnement. Mais lorsque je regarde son parcours et que je vois tous les étudiants de la salle dire oui lorsque l'on parle de sa marque, c'est que l'entrepreneuriat local a des chances de succès, à condition de beaucoup de courage et beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup d'intelligence.
Alors
pour un élu local, moi je pense qu'au contraire, c'est un challenge. Dans une ville comme Dakar, lorsque l'on est élu, on peut s'occuper d'hygiène, on peut s'occuper de salubrité publique. Lorsque l'on n'est pas le maire, nous n'avons pas beaucoup de leviers. Et ensuite, la capitale est partagée entre l'administration territoriale, donc le domaine de l'État, et le domaine des communautés. Alors que dans un petit village, dès que l'on fait quelque chose, il y a un effet de levier immédiat. Il a parlé de la paye de la vache. Moi, je pense aux banques de céréales qui sont établies. Dès que les paysans ont de la semence, dès qu'ils ont des engrais, dès qu'ils ont un tracteur, ils ne se cachent plus. Alors que la plupart du temps, c'est la course-poursuite entre les eaux et forêts, les gardes forestiers et les gens qui ont ou du bétail ou des fermes. Et ces gens-là reprennent une partie de leur dignité. Alors, l'entrepreneuriat local a du sens au-delà du fait que l'on puisse avoir une marge de profit, au-delà du fait que... Et tout à l'heure, dans un échange que j'ai vu un peu plus loin, il était question, c'est-à-dire de l'adéquation entre, en réalité, ceux qui sont nos ressources et ceux que nos écoles produisent. L'école africaine doit former plus de techniciens agronomes, plus de techniciens tout simplement, qui peuvent être immédiatement utiles, non seulement à la communauté, mais à l'économie dans son ensemble.
C'est ça, et pour développer leur pays loin de la capitale, et pas seulement
loin de la capitale,
grossir les banlieues.
Ou devenir ministre.
Oui, voilà. C'est le mot de la fin. Juste pour la fin de la première partie, on va rendre l'antenne pour le flash. On a un voisin qu'on aime beaucoup, qui est aussi sur ce plateau, chez 7 milliards de voisins, à Saint-Louis du Sénégal, c'est Ablaye Sissoko. Il est venu avec sa kora, ça vous ne le voyez pas. Mais vous nous préparez une petite surprise juste après le flash. Vous nous direz, Ablaye, comment vous imaginez sur la Kora entreprendre, réussir sa vie de citoyen, d'artiste, loin d'une capitale. Ça, hein, Ablaye ?
Exactement.
Ouais. On se retrouve juste après le flash, sur RFI, bien sûr, dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, l'émission est enregistrée à Saint-Louis du Sénégal à l'occasion du premier forum de Saint-Louis. Salut à vous tous, rebonjour. Le Forum de Saint-Louis pour discuter de l'avenir du continent. Et nous, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est peut-on entreprendre loin des capitales, en Afrique ? C'est dans les communes de 200 000 à 500 000 habitants qu'on attend la plus forte croissance urbaine d'ici 2050. 2050, c'est presque demain, surtout pour vous, les jeunes qui êtes dans la salle. Vous êtes venus notamment de l'université Gaston Berger. Alors, les villes secondaires peuvent-elles apporter le développement économique ? Avec quels emplois ? Ça, c'est une question cruciale pour vous. On en discute avec nos invités, Madame Ital, élue locale au Mali, Bagoré Batili, la laiterie du Berger, les célèbres yaourts d'Olima au Sénégal. Vous êtes basée à Richartol, à 100 km de Saint-Louis, c'est-à-dire à 400 km de Dakar. Barthélémy Togo, artiste plasticien camerounais de renommée internationale, vous vivez en partie à Banjoun, à 300 km de Yaoundé et de Douala, avec une résidence d'artiste que vous avez installée pour créer en toute sérénité. Et Ablaï Sissoko, musicien saint-louisien, ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs de sillonner l'Europe pour donner des concerts. On ne vous a pas encore vraiment donné la parole, Ablaï Sissoko, plutôt donné le micro pour faire sonner la cora. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous évoque comme l'idée même de ville secondaire, loin des capitales, à la lumière de votre propre parcours, musicalement. Ablaï Sissoko, joueur de kora, vivre et entreprendre loin des capitales en Afrique, c'est doux comme un son de kora.
Oui, en fait, cette chanson dit « Papa, ciao, ciao ». Et à un moment, elle dit « Au revoir ». Parce que le père de famille, qu'il soit un musicien ou représentant ou quelqu'un qui est toujours sur la route, au moment de quitter chez lui, il essaie toujours de se cacher. Et puis d'un seul coup, il entend une voix, une petite fille qui lui dit « Oh papa ». Tu n'as même pas dit « Au revoir ». Et puis il dit « Papa, ciao, ciao, au revoir ». Et c'est comme si la dernière fois qu'on partait. Et nous, chaque fois qu'on part, qu'on prend la route, c'est pour amener quelque chose pour nos enfants, pour préparer leurs avenirs.
Et en même temps, les villes secondaires peuvent être un pont entre tous ces gens qui sont partis à la capitale, qui revoient la famille pas assez finalement.
On dit que chaque homme a une mission sur Terre.
Ça, c'est bien une réponse de Griot.
Et on dit « Soyez utile à votre peuple, soyez utile à votre village ». Et si chacun de son côté a la possibilité de faire bouger les choses, on est content de partir, mais on est très pressé de revenir à la maison. C'est là où on se sent en paix.
C'est ce que vous faites, c'est ce qui vous arrive, Ablaï Sissoko.
Saint-Louis, c'est l'eau. Et on dit l'eau, c'est la source. Et on est toujours pressé pour revenir dans cette ville.
Alors, on va donner la parole à des jeunes qui veulent s'exprimer aussi sur le sujet, qui, pour une partie d'entre eux, sont étudiants et qui s'interrogent. Partir, rester. Khadijé, bonjour.
Bonjour.
Khadijé, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante à l'université Gaston Berger. Ouais. Tu as 24 ans, allez, j'ai le droit de dire tu.
Ouais.
Et tu veux devenir architecte des villes secondaires ?
Oui, spécialement réhabilitatrice des bâtiments anciens, surtout par rapport aux villes comme Saint-Louis, puisque j'ai entamé mes études universitaires ici en étant dans la section patrimoine de l'UFR CRAC. Et spécialement, je suis une gestionnaire des institutions culturelles. Mais ce qui m'a vraiment motivée, c'est que depuis petite, ça m'a toujours intéressé les bâtiments, dû au fait que je suis née en Italie, donc je suis très quelqu'un ancré dans l'histoire. Et mes parents, mon père surtout, il était parti en France pour ses études, donc c'est un immigré, mais qui a voulu rentrer au Sénégal pour entreprendre quelque chose. Donc je suis dans la mouvance qu'on peut entreprendre dans les villes secondaires. Ouais. Je crois à ça. Ça m'a toujours motivée l'architecture, mais quand j'ai regardé le Sénégal avec l'architecture coloniale, je me suis dit que c'est un gâchis que ces bâtiments, on les laisse s'écrouler sans les réhabiliter, sans les faire. Et quand on se met sur le terrain, moi qui habite à Thiès, tu ne vois pas d'architecte. J'ai fait les routes, j'ai fait tout, mais tu ne vois pas d'architecte qui réhabilite ça. Ou genre, quand tu vas dans l'ordre des architectes, la plupart des personnes, c'est des étrangers. Il y a peu de Sénégalais où s'il y en a un peu, la construction qu'ils font n'est pas en rapport avec la ville. Comme à Saint-Louis qui a été classé, tu vois des bâtiments R+4 et qui sont carrément interdits.
R+4, c'est...
Ça veut dire le rez-de-chaussée avec 4 étages de plus. Oui. Normalement, c'est R+1. Il doit avoir qu'un rez-de-chaussée et un étage au plus.
Toi, tu as cherché des stages en dehors de Dakar parce que tu es de Thiès, tu es étudiante
stages,
à Saint-Louis.
J'ai cherché des
stages. Tu n'as pas vraiment envie de revenir à Dakar pour trouver un stage?
Non, Dakar, j'aime pas. Vraiment, pour dire la vérité, j'aime pas du tout Dakar. C'est très pollué, c'est très compliqué. Et si tu n'as pas des relations, pour dire vrai, bah, tu débouches à rien, vraiment. On ne te considère pas vraiment. Bref, j'ai cherché à Thiès. Mais je n'ai pas trouvé. À la fin, j'ai dû faire un stage d'archivistique. J'ai cherché aussi à Saint-Louis, mais en architecture carrément réhabilitateur, non, je n'ai pas pu trouver, malheureusement.
Alors, comment tu vois ton destin aujourd'hui?
Ben, moi, mon destin, comme je le vois, c'est que je veux réussir et je vais mettre tous les moyens, même s'il faut que j'aille continuer mes études ailleurs et pour revenir et les placer, parce que je vais être la première spécialiste du Sénégal et je vais le faire, quel que soit le temps ou le moment. Et je vais me placer à Thiès exactement pour aider la future génération. Vraiment.
On te croit sur parole, Radidje. Merci d'être intervenue.
Merci beaucoup à vous.
Alpha Diack, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as 27 ans. Tu es étudiant à l'université Gaston Berger.
Un master de gestion des biens, des sites et des institutions du patrimoine. La question, peut-on entreprendre dans les villes secondaires? Déjà, il faut se poser la question à savoir pourquoi aujourd'hui les jeunes quittent les villes, fuient les pays pour aller chercher autre chose ailleurs. Déjà, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de formation, d'éducation qui fait fuir les jeunes, n'est-ce pas, qui cherchent à entreprendre leur propre projet ailleurs. Mais je suis de ceux-là qui pensent et qui croient que le fait d'entreprendre en fait, dans les villes secondaires est une possibilité. Tout comme monsieur le propriétaire de Doliman est un exemple, Youssoundour aussi, dans le secteur de la culture, a montré vraiment que l'entrepreneuriat peut faire réussir la personne. Et je suis de ceux-là qui défendent, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat qu'on développe. Prenons le cas de Saint-Louis, qui est une ville aujourd'hui, selon les statistiques, qui fait 944 550 habitants. Quand vous allez à Raou, Pal ou bien Gando, dans ces communes-là, presque on ne voit personne. Alors que s'il y a des potentialités économiques qui sont là, Saint-Louis est une ville essentiellement d'eau et il y a assez de terres. On peut développer l'agriculture, l'élevage, mais on ne voit pas des gens qui développent certains business allant vraiment dans ces deux secteurs-là.
Oui, mais les jeunes vont te répondre, il n'y a rien ici, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'opportunité, il faut aller à Dakar.
Il faut savoir c'est quoi un projet. Un projet, c'est ce que l'on veut faire. Déjà, il faut faire naître une idée et la matérialiser par la suite. Maintenant, pourquoi les gens se disent qu'ils quittent Dakar pour aller faire autre chose? Parce qu'il y a une réelle concurrence qui est, n'est-ce pas, à Dakar. Tout le monde fait pratiquement la même chose. Mais il faut utiliser les zones les plus reculées, les villes secondaires, là où il n'y a rien, essayer d'implanter quelque chose. C'est comme ça qu'on commence à prospérer ces villes-là. Saint-Louis, en exemple, avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a fait naître les villes d'Engalel, les villes Sanar, qui commencent vraiment à émerger. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'entrepreneuriat qui est en train de se développer et les gens...
Donc il faut délocaliser les projets.
Il faut délocaliser les projets.
Merci Alpha Diack.
Merci beaucoup.
Qui veut réagir?
Par rapport à la réaction de la jeune fille, déjà c'est bien ce qu'elle fait. L'entrepreneuriat dans les villes secondaires devrait être porté d'abord par les acteurs locaux. puisque c'est eux qui sont au fait des problèmes à résoudre.
Ouais. Alors je rappelle que Mariam, vous avez commencé à Dakar, votre plateforme pour aider le e-commerce.
Exactement.
Mais vous voulez vous implanter dans les villes secondaires et c'est là maintenant que vous avez votre feuille de route business.
Exactement. Et c'est eux qui sont au fait des questions, des problèmes au niveau local. Et entreprendre, c'est juste résoudre des problèmes.
Mais ils sont très nombreux quand même dans les villes secondaires, les problèmes.
Bien sûr qu'ils sont encore plus nombreux. Et peut-être que ça devrait être même un peu plus difficile que Dakar. Mais au niveau local, ils peuvent porter ces problèmes d'entrepreneuriat, au moins sur une petite partie qui permet de créer un minimum d'emplois. Après, c'est les grands groupes aussi qui ont aussi un rôle à jouer. Parce qu'être tous concentrés à Dakar, même si il y a une bonne partie du marché sur place, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas des mécanismes à créer pour les aider à partir dans certaines régions du pays.
J'ai une question par rapport aux élus locaux et vous-même à l'entrepreneur. Souvent, dans le marché, on voit les mêmes trucs. Ces temps-ci, c'est le multiservice qui marche à Dakar et tu vois qu'on copie ces trucs partout. Il y a certes de l'entrepreneuriat, mais c'est du copier-coller. C'est quelqu'un qui crée un truc et l'autre fait l'autre. Il n'y a pas de diversité. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut faire des ingénieurs agricoles et tout ça. Moi qui viens de Thiès, là-bas c'est scientifique, il y a l'ENSA et tout ça, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sortent, même ici à l'UGB, ils n'ont nulle part où aller parce qu'en général, les agriculteurs ne vont pas les payer, ni les prendre pour qu'ils gèrent leur champ. Mmh. Ceux qui disent, ils ne connaissent pas. Et la plupart du temps, ils ne sont pas très professionnels parce qu'ils n'ont pas pu avoir des stages. Vraiment. Donc je me dis que aussi les élus locaux, vous, certes c'est bien beau vous parlez, vous nous promettez ceci, cela, mais on ne voit rien de concret vraiment quoi. Comme nous, la culture, moi je suis dans la culture, c'est décentralisé. Maintenant c'est la mairie qui s'occupe. Mais on s'occupe seulement du truc folklore. On prend le patrimoine de la ville pour en faire du folklore et pour que quand il y a les visiteurs, on change, on dénature carrément le truc. Et là, ça devient problématique pour nous parce que nous on veut faire passer un message. On n'est pas ici pour faire divertir qui que ce soit. Mais pourquoi ça quoi? Je demande.
Oui, si tu permets, juste une petite aparté.
Batili, de la Métrie du Berger, à Richard Toll.
Moi, je suis sous le charme, en fait. Bravo, félicitations. Et je reconnais ton énergie. Et ce n'est pas facile d'arrêter ça quand c'est parti. Je sais que ce que tu as dit, tu vas réussir là, mais tu vas le faire. Tu vas le faire. Il n'y a aucune raison. Il y a un beau proverbe dans le fleuve qui dit « Le fait que le feu de brousse ait traversé le fleuve est vraiment une cause d'embarras pour celui qui voulait l'éteindre. » Et tu vois, moi, je crois que la force des jeunes, là, c'est des feux de brousse qui peuvent traverser le fleuve. Une fois que c'est parti, celui qui croit qu'il peut l'arrêter, il peut commencer à se poser des vrais, vrais problèmes.
Madame Ital.
On est toujours dans le même problème. Il ne s'agit pas d'ingénieurs. C'est les enfants de paysans qui ont besoin d'être des techniciens agricoles, agronomes, de pouvoir, c'est-à-dire optimiser leur champ. Et justement, quand vous dites que ça n'intéresse pas les paysans, mais si c'est eux-mêmes qui sont formés, si c'est leurs propres enfants qui deviennent des techniciens agricoles, des agronomes. Mais là, ils sont intéressés parce qu'ils sont à la fois acteurs et bénéficiaires. Et puis, dans le village où je suis élu, chaque année, c'était la catastrophe pour payer les impôts. Dès que les gardes forestiers arrivent, on se planque. Et aujourd'hui, nous sommes le meilleur contributeur du Mali.
Comment vous avez fait ?
On a mis une banque d'engrais, pris un tracteur. Le tracteur cultive notre village. Une fois qu'il a cultivé notre village, il cultive les villages voisins à 25 000 francs l'hectare. Et finalement, on a commencé à engranger des plus-values. Et finalement, on a commencé à payer nos impôts à l'avance. Et finalement, on s'est dit, écoutez, on va essayer de mettre de l'électricité. Et on a commencé à mettre des lampadaires solaires. Et finalement, les mamans venaient chercher leurs enfants la nuit à minuit sous les lampadaires parce que c'était devenu le lieu de regroupement. Vous savez, dans mon pays, il n'y a qu'un seul lycée technique pour tout le Mali. Il devrait y en avoir un dans chaque cercle.
Vous êtes dans le cercle de Bandiagara, on
voilà, précise. Voilà, il n'y a pas de lycée technique à Bandiagara. Il devrait y avoir un lycée agricole dans chaque cercle. Nous sommes un pays supposé être à vocation agricole. 70% de la population vit de l'agriculture. Et nous avons des écoles secondaires, primaires, des universités qui forment un lot de chômeurs chaque année. Alors, sans doute, un politicien est un menteur en puissance. Mais il faut vous dire qu'il y a des politiciens qui ont été jeunes comme vous et qui ont cultivé des rêves et des ambitions pour leur pays comme vous. Quand vous serez à ma place dans 30 ans, ou quand vous serez à la sienne dans 10 ans, et que vous avez passé votre vie à vous battre pour une autre Afrique, vous comprendrez une jeune fille comme vous qui serait assise en train de nous faire la leçon. Hein? Vous comprendrez, parce que vous êtes passé justement, vous avez été vous-même ce feu de brousse, et vous êtes content de voir que ce feu ne s'éteint pas, que la flamme se transmet. Mais en même temps, on est obligé de continuer à penser pour le continent, malgré les difficultés. Et le rôle d'un élu local, il est complexe, parce que la décentralisation, souvent, transfère la responsabilité sans les ressources financières et sans les compétences humaines. Et l'État central, très souvent, est occupé dans la capitale et par la politique. Et donc, il arrive que, bon, effectivement, les régions soient laissées pour compte, que les enfants du pays, qui ne sont pas simplement les jeunes de Gaston Berger, mais qui sont les jeunes gens qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui sont obligés de quitter l'école et qui vont aider les parents à tirer les bœufs ou à cultiver les champs, puissent avoir une issue. Et réellement, la démocratisation de l'école, parce qu'aujourd'hui, l'école est élitiste, la démocratisation de l'école passe justement par la formation technique, pas d'ingénieurs, de techniciens. Vous savez, en France, ils ont les meilleurs ingénieurs du monde. Polytechnicien, moi j'ai un oncle qui est polytechnicien, l'autre il est normalien, mon grand-père est normalien, il a fait Normale Sup Paris. Ils ont les meilleurs ingénieurs du monde. Mais vous savez pourquoi l'Allemagne a toujours une longueur technologique d'avance? Parce que les techniciens intermédiaires allemands, ils sont tous bien formés et ils peuvent compenser le rôle de l'ingénieur. Donc ne pensez pas à l'ingénieur simplement, pensez au CAP, au BEP, à l'agronome, à toute cette chaîne de valeur qui va faire en sorte que notre tissu industriel, économique, social va se renforcer au niveau du développement local.
Justement, on va donner la parole à un jeune qui a quitté l'université dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Pense à 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Milliards de voisins, on enregistre cette émission à Saint-Louis du Sénégal. On est tout près du fleuve. On est dans une salle avec des jeunes qui sont venus écouter des parcours très différents d'entrepreneurs, de politiques, d'artistes qui ont fait des choix bien particuliers d'entreprendre un projet quel qu'il soit, d'avoir aussi un destin de citoyen loin des capitales en Afrique, puisque c'est le sujet qui nous occupe. On donne la parole à Bamba. Bamba, 29 ans, tu es originaire de Casamance. Oui. Tu as passé quelques années sur les bancs de l'université Charanta Diop. Ça ne t'a pas plu à Dakar?
Oui, j'ai fréquenté l'université 2 ans.
Tu habitais à Guédiawaye.
Oui.
Tu te levais à quelle heure le matin pour aller en cours?
Bon, je me levais à 5 heures du matin pour aller à l'université. Mais à chaque matin, je me retrouvais devant la porte de l'amphi avec 1 million d'étudiants. Je n'arrivais même pas à faire cours. La première fois, j'ai fondu en larmes.
Tu as surmonté cet échec. Tu es revenu ensuite dans la région de Saint-Louis. Et aujourd'hui, tu as entrepris une formation pour travailler dans l'agriculture.
Je me paye une formation à Saint-Louis, ici, en agronomie. Vu que je suis là près de la vallée du fleuve, c'est Sénégal, je vois que les conditions sont réunies pour pratiquer l'agronomie.
Ouais. Et parallèlement, je voudrais aussi dire que tu es bénévole pour faire vivre le patrimoine de Saint-Louis avec plein de jeunes.
Oui. La ville de Saint-Louis, elle est riche en histoire. Et beaucoup d'entre nous, pratiquement les jeunes, n'en profitent pas. Et Saint-Louis est classé parmi les patrimoines historiques du Sénégal. Saint-Louis est la première capitale de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest.
Merci Bamba d'être intervenu. On te souhaite évidemment du succès.
Ok, merci beaucoup.
Borika, tu as 17 ans, tu es lycéenne.
Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir cher monsieur.
Alors comment tu réagis à tout ce que tu as entendu déjà?
Alors pour tout ce que je viens d'entendre, je suis pour qu'on peut bel et bien entreprendre en dehors du pays.
Non,
alors,
c'est pas ça le sujet.
Alors c'est quoi?
Loin des capitales.
Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire, loin du capital. Excusez-moi.
Tu vas pas partir en Libye là.
Ici au Sénégal, on voit pas mal de jeunes qui vivent ici. Alors après avoir tous les diplômes possibles, ils ne parviennent pas à avoir du boulot. Alors ça me fait mal au cœur. Pourquoi après le bac et après avoir eu tous les diplômes possibles, tu ne parviens pas à avoir du boulot? Alors je peux donner l'exemple, comme par exemple, moi je veux plus tard être chanteuse. Alors ici, on n'a pas beaucoup de moyens pour se développer. Alors, vaut mieux aller ailleurs pour puiser de l'eau. Alors, revenir dans ta capitale.
Sous-entendu, pour... à Dakar, où tu vas pouvoir rencontrer des gens qui travaillent dans des studios d'enregistrement, par exemple.
Oui, exactement. On peut aller dans la capitale, puiser là-bas de l'eau pour venir arroser ton propre milieu.
C'est bien dit.
C'est pas une question de sous-estimer ton milieu, mais c'est juste une question d'avenir. Parce que quand tu as l'avenir devant toi, il vaut mieux être intelligente et essayer de voir loin pour exploiter ce que tu as.
Merci, Mboïka. On va donner la parole à nos invités, c'est bientôt le mot de la fin. J'aimerais que chacun vous nous disiez quelles sont vos préconisations pour qu'enfin les villes secondaires se développent, pas seulement en termes de surpopulation, avec tous les problèmes qu'on connaît, mais qu'elles se développent dans le bon sens du terme. Bagoré Batili.
Il y a beaucoup de jeunes qui naissent dans les campagnes et pour qui il faut déjà trouver une valeur au jour le jour, pour ceux qui savent faire, et ce sont des éleveurs, ce sont des agriculteurs. Pour moi, c'est eux les premiers entrepreneurs. Hein. Et ils veulent entreprendre chez eux. À chaque fois que je viens à Saint-Louis, à chaque fois, franchement, je suis à Richardtol, à chaque fois que je prends la route et que j'arrive vers Saint-Louis, je me dis, mais il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. Je me dis, ouais, il faut vite qu'on réussisse à la laiterie parce qu'après, il faut faire ça, 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 ça. Donc, ce n'est pas les opportunités qui manquent ici. On sait qu'il y a un mouvement lourd vers les villes parce que là-bas, il y a tout le tertiaire, tous les services, toute l'efficacité. Bon, ça, ça va se faire de toute façon. Mais dans les campagnes, donner un avenir à ceux qui veulent rester paysans, et il y en aura. Et il faut que ces gens-là aussi puissent vivre bien. C'est ça le mot pour moi.
Autre préconisation d'un autre entrepreneur, Omar Yam.
Ben, moi, je suis pour déjà assister les acteurs locaux pour un entrepreneuriat local. Donc, il faudra voir tout ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes à faire ce qu'ils veulent faire sur place, que ce soit au niveau formation, que ce soit au niveau financement. Voilà. Il y a tout un arsenal.
D'accompagnement, mais du côté des entrepreneurs, c'est aussi votre mission, ça doit être votre mission en tant qu'entrepreneur.
Exactement, et surtout, que ce soit l'agriculteur qui doit être formé ou l'éleveur qui doit être formé, les orienter vers le digital, vers le numérique. Parce qu'il y a quelque chose à prendre là-bas et ça peut accélérer les choses. Ils ne seront pas obligés de faire comme leur père, de passer par tout le secteur où leurs parents sont passés. Avec le digital, ils peuvent accélérer les choses.
Ablaï Sissoko, on le dit beaucoup aujourd'hui dans les capitales, y compris les capitales africaines, il y a vraiment une uniformisation de la culture. Est-ce que les villes secondaires vont résister à ce broyage culturel?
Je pense qu'il faut encourager les initiatives personnelles aussi. Parce que vu ma collègue chanteuse qui veut devenir une grande chanteuse...
Vous allez la faire travailler.
Parce
hein.
que vous voyez, dans nos régions, on n'a pas d'espace pour s'exprimer. Comme je disais, vous voyez tout le Sénégal, 14 millions d'habitants, il n'y a qu'un seul conservatoire de musique, ce n'est pas possible. Donc heureusement, on a à l'université le CRAC, mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi que nous, chacun de son coin, les artistes qui ont eu la chance d'être connus, d'avoir la possibilité de mettre des choses en place, il faut que ces géants de la musique, qu'elles soient dans la culture, puissent mettre des choses en place pour donner la possibilité de ces jeunes. Parce qu'elles vont grandir. Et là, elles sont déjà soutien de famille. Et s'ils n'arrivent pas vraiment à faire l'art qu'ils veulent, ils vont tourner, ils vont aller chercher. Oui, je vais donner maman, je vais donner papa. Après, leur vie va passer complètement à côté.
Et je pense leur destinée culturelle, voilà, pour ceux qui auront choisi d'être artistes. Voilà. Barthélémy Togo, vous, en tant qu'artiste, est-ce que les villes secondaires peuvent être un pont entre les capitales et puis une vie plus au calme, ou notamment, je pense à votre centre de création culturelle à Banjoun.
Dans la région de l'ouest du Cameroun, cette région a pu garder sa tradition séculaire et c'est une chance que les jeunes puissent rester dans cette région. Et je pense que l'avenir est dans les villes secondaires en Afrique parce qu'aujourd'hui, on a Internet partout et que la qualité de la vie est meilleure. C'est surtout ça par rapport à la santé qui est important pour moi.
Merci Barthélémy Togo. Madame Ital, je vous laisse le mot de la fin.
Entreprendre, c'est une affaire de courage. Dans les grandes villes ou dans les petites villes secondaires, c'est une affaire d'équation personnelle, de vision que vous allez développer et de patience que vous aurez à développer votre projet sur la durée. Et qu'il y aura des écueils, mais que pour ceux qui savent être persévérants, comme l'a été Batili, il y a le succès au bout du résultat.
Merci, voilà. Madame Nital. Merci à vous tous. Merci au Forum de Saint-Louis aussi qui nous a permis de réaliser nos émissions. Merci à toute l'équipe aussi à Saint-Louis, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous retrouver, réécouter l'émission sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, Charlie Dupiau présente l'émission de Paris. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour une autre émission enregistrée à Saint-Louis du Sénégal avec le coach Didier Akouété. Pour tous les jeunes qui ont du mal à démarrer leur projet, Didier Akouété vous écoute, vous conseille chaque mois dans l'émission. Et parfois, nous venons, c'est vrai, jusqu'à vous. Mais sinon, bien sûr, vous participez aussi au téléphone. Dans quelques instants, ce sera le journal. Et exceptionnellement, le générique de fin, on laisse la Cora d'Ablaï Sissoko.
Daramini, lay 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 lay, say good, Daramini.